Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Bombay, c'est une ville où vraiment on dit il faut circuler à la vitesse des roues. Si on ne circule pas à la vitesse des roues, on est écrasé. Donc il y a beaucoup de gens, ils bossent. Des livraisons, des gens qui font les recycleurs. Il y a 10 millions de petits métiers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des dabalas. Il suffit de poser un pied et une caméra dessus et laisser tourner la caméra. Et puis on aura un documentaire, tout fait. Parce qu'il y a tellement de choses qui passent dans les rues. Toutes sortes de choses. Vous allez avoir mal au dos en regardant tout ce qui se passe dans les rues. Et surtout à Bombay.
Bonjour à tous. Dans le monde, peu de villes convoquent autant de superlatifs et de contrastes que Bombay. Bombay ou Mumbai, c'est là qu'on vous emmène cette semaine à la découverte de cette bruyante mégapole côtière qui, à elle seule, concentre toute la fureur et l'élan du sous-continent indien dont on a souvent dit qu'elle était la porte. En effet, jadis, on arrivait jusqu'à son étroite péninsule par la mer. Aujourd'hui, si on la découvre par les airs, on est tenté d'y voir un monstre urbain à la gueule ouverte sur les eaux, en tout cas sur Back Bay. Et vu d'en haut, c'est fascinant. Mais vu d'en bas, c'est différent. Quoique. À présent, approchons-nous un peu du monstre. Nom officiel depuis 1995. Mumbai, même si beaucoup comme nous disent encore Bombay. Population, 22 à 25 millions d'habitants, on ne sait plus bien. Superficie, 600 km², sachant que l'agglomération elle-même s'étend jusqu'à 4000 km². Statut, capitale de l'état du Maharashtra et capitale économique de l'Inde, genre, colosse urbain ou machine au PIB de 300 milliards de dollars, même si la pandémie l'a sacrément enrayé. La première fois que Combastin, notre reporter, a posé le pied sur cette planète parmi la foule, entre bidonvilles, gratte-ciel et vestiges coloniaux, il s'est tout de suite demandé mais comment ça marche? Alors, pour nous cette semaine, il a décidé d'y retourner pour tenter d'y répondre, guidé par des Mumbaikers pur jus. A commencer par Siddharth Bhatia, fondateur du journal indépendant en ligne The Wire, que Com a retrouvé dans le vieux Bombay.
Je suis très heureux de vous accueillir ici, au milieu du parc Oval Maidan. C'est une partie très ancienne du sud de Bombay. Elle est désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous pouvez voir du côté est de Maidan une partie de la ville construite au 19e siècle par les Anglais dans un style ancien, européen ou anglais. Un peu sur le modèle des cathédrales. Donc, vous pouvez voir ici la haute cour et son toit ancien. Il y a aussi un beffroi avec une grande horloge. On appelle cette zone le Bombay gothique, car on y trouve aussi des spécificités liées à Bombay, des frises, des statues. À l'opposé de l'autre côté du parc, vous avez plein d'immeubles de style art déco, construits dans les années 30, avec leur propre touche tropicale. Ils ont une forme carrée, des balcons qui ressemblent à des tiroirs, si vous regardez bien. De Marine Drive, qui est une route le long de la mer, à Chaupati, la plage, vous verrez tous ces immeubles art déco. C'est la seconde plus grande concentration d'architecture art déco au monde.
Quel genre d'histoire on est amené à couvrir lorsqu'on est journaliste indépendant dans cette ville ?
Disons que l'énergie de la ville est une histoire en soi. Moi, ça fait 3 ans que je travaille sur un livre pour essayer de comprendre cette ville. Et je dois vous avouer que je ne la comprends toujours pas. Il y a un vieux mythe ici qui dit « Viens à Bombay de n'importe où ». Si tu as le talent, le mérite et que tu travailles dur, tu peux gagner une fortune. Mais en réalité, pour beaucoup de gens, c'est d'abord une affaire de survie. C'est une ville très difficile, pleine de petites poches d'entrepreneuriat, mais aussi de misère. Ici, l'économie informelle a une place énorme. Les filatures historiques de coton de la ville ont disparu. Beaucoup d'usines ont fermé, celles d'impression, de mécanique. Celui qui débarque ici va forcément travailler dans le secteur tertiaire, les services, que ce soit dans le cinéma, la pub, faire le livreur, chauffeur VTC ou gardien de sécurité. Tous ces métiers qui émergent en ce moment. Si vous regardez bien à l'entrée des immeubles, et il y en a des milliers, tous ont un ou deux gardiens en bas. Toute cette économie de services a attiré des jeunes qui ont migré en masse à Bombay. Après, je ne dis pas qu'il y a de l'emploi pour tout le monde, mais les chances de trouver un travail ici sont plus importantes qu'ailleurs. Sachant qu'ici, vous avez peu de chances de trouver un logement, mais au moins, vous avez un petit boulot dans le secteur informel. Si vous avez traversé Bombay, vous avez dû voir beaucoup de bidonvilles. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les gens qui vivent dans ces bidonvilles ne sont pas forcément pauvres. Ce sont des professionnels, académiciens ou fonctionnaires. Si vous allez dans le bidonville de Dharavi, vous verrez, il y a plein d'activités là-bas qui génèrent beaucoup d'argent. Tout ça fait que cette ville ne croit pas au pessimisme. Elle ne croit pas qu'une fois tombée, elle ne peut pas se relever. Certains appellent ça l'esprit de Bombay.
Regardez, là, ils récupèrent le plastique noir dans ce bac et le plastique blanc dans un autre. Ensuite, ils les écrasent jusqu'à en faire une poudre. Puis ils vont la revendre à un artisan qui va tout laver. Après, ce type va le revendre à son tour à un autre qui le fera fondre. Il y a des enchères pour choisir celui qui fait le meilleur prix. Il y a au moins 3 ou 4 étapes avant que le plastique ne soit finalement réutilisé. Par exemple, pour faire des bouteilles.
Je m'appelle Ajmullah Khan. J'habite dans le quartier de Dharavi et je travaille comme recycleur. Ici, on trie le plastique en fonction de sa qualité, sa couleur et l'usage qu'on peut en faire. Il y a des collecteurs qui parcourent tout Bombay. Ils vont de maison en maison pour racheter les poubelles. Ensuite, ils revendent les matériaux qui ont de la valeur dans certains centres. Puis ces centres les desservent ici avec des camions. Ce business, c'est comme une chaîne alimentaire. Moi, ça fait 30 ans que j'habite Dharavi, dans une petite bicoque, avec ma femme et mes 3 enfants. J'ai vu le quartier changer. Avant, toutes les usines de recyclage étaient situées ici, à Dharavi. Aujourd'hui, les plus grosses ont été délocalisées en périphérie de Bombay. À même pas 100 mètres, vous pouvez voir le quartier moderne BKC, qu'on surnomme le Manhattan de Bombay. Vous n'avez qu'à suivre cette route et vous tomberez sur des grands sièges d'entreprise. La différence, c'est que BKC, c'est pour les gens instruits, et Dharavi, pour ceux qui n'ont pas étudié. D'un côté, l'économie classique, et de l'autre, l'économie informelle, sans contrat, sans papier. Mais il y a aussi des petits boulots à BKC, comme gardien d'immeuble, par exemple. Le gars aura beau porter un costume et avoir la clim, pendant que nous, on trime dans les déchets, il sera souvent moins payé que nous, à Dharavi. Vous savez, moi, je pense que nous ne sommes pas si différents. Nous produisons tous de la valeur et nous sommes tous indispensables à cette vie.
Bombay as a city has always grown in an organic way, and of course the city has not had methods to be able to absorb this incoming labor that it desperately needs to progress.
Bombay est une ville qui a toujours grandi de façon organique. La ville n'a jamais mis en place des méthodes pour absorber toute la main-d'œuvre immigrée dont elle a absolument besoin pour fonctionner. Donc c'est très courant à Bombay de se retrouver à un endroit où les contradictions de la ville vous sautent aux yeux, avec d'un côté des bidonvilles et de l'autre des gratte-ciels. On imagine instinctivement que ce sont deux mondes séparés, mais en réalité, c'est le contraire. Ils vivent l'un de l'autre. Ce n'est pas seulement le bidonville qui vit des quartiers riches, c'est aussi l'inverse.
My name is Rohan Shivkumar.
Je m'appelle Rohan Shivkumar et j'enseigne à l'école d'architecture de Juhu à Bombay. Dans cette école, nous essayons d'imaginer des cours d'architecture axés sur les besoins spécifiques de cette ville. 60% de la population de Bombay habite dans les bidonvilles. Il est donc clair qu'il faut améliorer ces quartiers en partant du point de vue des gens qui y vivent.
On parle toujours des bidonvilles comme un tout, mais quant au parcours Bombay, on se rend compte qu'ils sont eux-mêmes très inégalitaires.
Vous avez tout à fait raison. Si vous vous promenez dans les rues de Dharavi, vous tomberez sur d'anciennes communautés de potiers, des quartiers dédiés au recyclage, des migrants venus de tous les États d'Inde, chacun avec sa propre langue, son propre festival. Donc ce n'est pas homogène. Si l'on se met à penser la ville comme un engin, il faut penser à l'importance des rouages de cette machine. Et en filant cette métaphore, on se dit alors que peut-être les bidonvilles sont l'une des choses les plus fascinantes de Bombay, parce qu'ils sont capables de fournir des débouchés à tant de familles qui vivent parfois dans la pauvreté la plus absolue. Il y a tellement d'activités économiques dans ces rues, les travailleurs du cuir, de l'industrie textile, les potiers, les ferrailleurs, les cuisiniers, et c'est un endroit dont la ville entière dépend. Pas seulement pour ce qui y est fabriqué. La main-d'œuvre vient de Dharavi. D'ailleurs, beaucoup des industries dites formelles sous-traitent une partie de leur travail à Dharavi. C'est donc une formidable machine, et pas seulement pour les habitants de Dharavi qui peuvent améliorer leur sort, gagner de l'argent, accéder à une éducation et des soins qui sont souvent absents dans les États pauvres de l'Inde, comme le Bihar. Mais Dharavi est aussi un endroit très important qui, en quelque sorte, produit la ville.
En plein milieu de la ville, il y a une station de train, la station de train de Mahim. Si on sort du côté ouest, on tombe dans Mahim, qui est un quartier colonial plutôt aisé. Si on sort du côté est, on arrive dans Dharavi. Là, on va me faire visiter une autre partie du bidonville. Pour y parvenir, on marche à même les voies de chemin de fer qui sont remplies de détritus. On est au bord de la voie de chemin de fer. Bonjour Samina, vous travaillez où ?
Je travaillais dans le plastique, mais aujourd'hui je suis employée dans un atelier où on démonte les chaussures. Je commence à 10h et je reviens à la maison à 14h pour manger. Puis je travaille jusqu'à 20h.
Vous avez 32 ans, vous avez 4 enfants. Qu'est-ce qu'ils font à Dharavi ?
À cause du Covid, je ne peux plus les envoyer à l'école. Alors, ils étudient le Coran à la mosquée. Et puis, mes deux filles suivent aussi une formation dans un salon de beauté. Je suis arrivée à Dharavi très jeune. Je viens d'un village près d'Hyderabad, dans le Telangana, mais je ne me rappelle même plus où il est.
Là, on entend les trains passer, c'est assez bruyant. Est-ce que ça vous gêne pour dormir, pour vivre tout ce bruit ?
Oui, la sirène des trains, c'est un traumatisme pour moi. La sœur de mon mari s'est fait écraser par un train, ici même, dans cette station. On l'a retrouvée coupée en 3 morceaux. Souvent, la nuit, je fais des cauchemars au passage des trains. Mais ce n'est pas le seul problème ici. La maison est trop petite, on ne se sent pas en sécurité. Une simple querelle peut déclencher une bagarre géante. Je veux rester à Dharavi, mais dans une autre partie du bidonville, avec de meilleures écoles.
Ici à Dharavi, les gens ont appris à ne compter que sur eux-mêmes. Quand ils sont arrivés, le terrain était boueux. Alors ils l'ont asséché, ils ont comblé les trous dans le sol. Dharavi a été fait de toutes pièces, à la force des mains de ses habitants. Ils ont commencé avec des bicoques en bois, puis les ont renforcés avec du béton ou du plastique. Des familles se sont installées, elles ont construit des deuxièmes étages, des troisièmes étages. C'est ça qui fait la beauté de ce lieu. Il appartient à ses habitants. Je m'appelle Shekhar et je suis le président de la Fédération nationale des travailleurs des bidonvilles. Nous sommes une fondation et nous travaillons à Dharavi mais aussi dans d'autres bidonvilles de l'Inde et de Bombay. C'est Jokin Harputam qui a lancé notre mouvement en 1969. À l'époque, il vivait dans un bidonville où les problèmes s'accumulaient sans que le gouvernement ne vienne en aide aux habitants. Il a alors commencé à organiser des manifestations locales, mais ça ne marchait pas. La police les réprimait violemment. Il a donc décidé d'unir tous les travailleurs des bidonvilles de Bombay au sein de cette fédération pour que leur voix soit enfin entendue. Notre rôle est de protéger les droits des travailleurs. Par exemple, le gouvernement a un jour voulu déplacer toute l'industrie de recyclage en dehors de la ville. Nous, nous y sommes opposés parce que sinon, tout le monde aurait perdu son emploi ici. Nous tentons aussi d'améliorer l'habitat. À chaque fois qu'il y a des plans de rénovation, nous militons pour qu'ils bénéficient à la population locale afin qu'elle puisse continuer à vivre ici. Notre siège est à Dharavi parce que c'est le plus grand bidonville d'Asie. C'est aussi un des cœurs de Bombay parce qu'il est au centre de la ville, mais aussi parce que toute la ville en est dépendante. En même temps, c'est un écosystème qui se suffit à lui-même.
Pour trouver le cœur battant de Bombay, c'est donc à Dharavi qu'il faut aller. Dharavi, bidonville le plus vieux d'Asie, a été rendu célèbre à travers le monde par le film Slumdog Millionaire, qui, avec son histoire de gamin des rues décrochant le gros lot à un jeu télévisé, vantait à sa manière les sirènes de Bombay, ce navire amiral de la mondialisation émergente où tout serait possible. Sauf que pour faire avancer ce bateau, il faut bien des soutiers qui œuvrent dans la cale. Alors à Dharavi, dans ces 200 hectares de ruelles étroites et d'égouts à ciel ouvert souvent jonchés d'ordures, on travaille dignement et d'arrache-pied, tout en redoutant les projets immobiliers venus de Dubaï et autres plans d'urbanisation qui, un peu plus chaque jour, menacent Dharavi.
Because of the geography, it is imagined that there's a scarcity of land, which automatically means that the value of land is much higher than it is in most other Indian cities. So a developer or a speculator or a
du fait de la géographie, il y a une extrême rareté de la terre à Bombay, ce qui implique nécessairement que cette terre a ici une valeur bien plus grande que dans les autres villes de l'Inde. Donc les spéculateurs et les propriétaires immobiliers essayent d'en tirer le maximum de profit. C'est pour ça que Bombay est pleine de gratte-ciel, en particulier dans le sud de la ville, où le prix au mètre carré est le plus élevé.
So Bombay is a very unique city in a sense that almost.
Donc Bombay est vraiment unique parce que toutes ces couches d'histoire continuent à coexister physiquement et architecturalement. Vous trouverez ainsi des temples millénaires dans des grottes comme les grottes d'Elephanta situées sur une île au sud de la baie, comme vous trouverez de vieux villages d'agriculteurs ou de pêcheurs cachés au beau milieu de la ville. Certains continuent aussi à pratiquer la pêche.
If you go to the south of Bombay, you have the Victorian Gothic buildings built with these.
Si vous allez au sud de Bombay, vous tomberez sur l'architecture coloniale, victorienne et gothique datant du 19e siècle. Et si vous allez plus au nord, vous pourrez voir des quartiers très denses qui ressemblent à des villes indiennes médiévales. Il y a encore de grands bâtiments ou dans les cours intérieurs et sous les galeries, plein de bazars et énormément de monde vendant toutes sortes de choses. Cette zone connaît encore un découpage communautaire très marqué. Il y a les quartiers musulmans, les quartiers hindous, les quartiers catholiques. Et puis, vous avez les anciennes usines avec leurs immenses entrepôts en ruine et leurs grands murs de pierre. On peut donc encore lire cette histoire des usines de Bombay dans la ville, mais les lieux sont de plus en plus menacés. Dans les années 90, il y a eu des grèves violentes et beaucoup d'usines ont fermé leurs portes. Depuis, cette zone se transforme très rapidement et aujourd'hui, il y pousse des gratte-ciel, des appartements de luxe et des centres commerciaux géants.
Il pleut sur Bombay. C'est plutôt rare en décembre, mais c'est ce jour-là qu'on a choisi pour aller patauger dans les Dobby Ghats, la plus grande laverie du monde à ciel ouvert. À perte de vue, on voit du linge, des jeans, des chemises, des draps qui sèchent au-dessus de bidonville. La zone est immense et elle est entourée d'un côté par des gratte-ciel en construction et de l'autre par la grande ligne de chemin de fer qui traverse tout Bombay du nord au sud.
Hello, I'm Santosh Kanodia. Je m'appelle Santosh Kanodia. Je suis le responsable des Dobigat de Bombay.
Le bidonville, il est entouré de murs. Là, on est devant une de ces portes, c'est ça?
Ah, this is one of gate number 14.
Vous êtes à la porte numéro 14. Les Dobigat ont été construits en 1880.
Il y a combien de travailleurs au total ici?
Il y a 731 puits en pierre, ce qui doit représenter entre 3000 et 4000 laveurs. Chaque puits est géré par un propriétaire dont il prend le nom. Ce sont eux, les entrepreneurs, ceux qui embauchent les laveurs.
Mais là, on est vraiment au centre de la ville, puisqu'on voit qu'il y a des gratte-ciels qui poussent tout autour. J'imagine que c'est pour des populations plutôt riches.
C'est vrai. Il y a des riches dans ce quartier, mais aussi beaucoup de pauvres. Dans les environs, vous verrez de petites habitations où ils vivent.
Mais pourquoi est-ce que les gens ils continuent à vous envoyer leurs vêtements? Je veux dire, à Bombay, ils sont équipés de machines à laver dans les immeubles maintenant.
Vous savez, l'Inde est un pays très densément peuplé, et Bombay en particulier. Ici, les gens vivent surtout dans des appartements et ils n'ont souvent pas la place d'avoir une machine à laver. Et comme les gens travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps de faire leur lessive.
Alors, je m'appelle Raj Gupta, je travaille et je vis ici. Ici, nous travaillons pour tout Bombay et toute l'Inde. Nous lavons le linge des hôtels, des hôpitaux, des compagnies de chemin de fer, des militaires, des salons de beauté, mais aussi des particuliers. Venez par là.
Il faut faire attention, il y a de l'eau partout.
Là, vous voyez une maison typique des Dobigat. À l'entrée, il y a une machine à laver et un sèche-linge. Comme vous pouvez le constater, c'est un environnement très sale, mais tout ce qui sort de la machine est super propre.
Donc ces immenses cylindres métalliques qu'on voit tourner à toute vitesse, ça, c'est les machines à laver.
Ça, c'est un sèche-linge géant. Il permet de retirer jusqu'à 90% de l'eau propre sur les vêtements. Là, c'est l'endroit où on fait le feu. On fait bouillir l'eau chaque matin. On fabrique aussi certaines lessives en mélangeant des produits chimiques pour les tâches les plus coriaces. Et là, c'est ici qu'on travaille l'après-midi pour le repassage. On a des fers à repasser électriques et des fers au charbon. Avec le charbon, c'est plus efficace. Donc voilà les Dobigat. 99% des gens qui travaillent et vivent ici sont pauvres.
At the time of British, and they brought the labor from different.
Du temps des colons britanniques, de la main-d'œuvre a été amenée de toute l'Inde jusqu'ici. De Hyderabad, du Bihar, de Calcutta, pour laver le linge des soldats anglais. Depuis, ils sont partis, mais les Dobigat sont restés et ils sont à l'image de Bombay. Beaucoup de gens venus d'états différents qui sont devenus des Mumbaikers, des vrais habitants de Bombay.
C'est vraiment un décor incroyable, ce dédale de puits, de machines, de linge qui sèche à ciel ouvert avec les gratte-ciels tout autour. J'ai entendu dire que même Bollywood l'utilisait parfois pour les tournages de ses films.
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de tournages ici. Le célèbre réalisateur Amir Khan y a fait un film qui s'appelle Dobigat. On tourne aussi des clips musicaux, des publicités. Les réalisateurs viennent d'Inde, mais parfois du monde entier. D'ailleurs, il paraît que deux ou trois décors de Dobigat ont été construits dans les studios de Film City à Bollywood. C'est un site historique. C'est ce que le gouvernement du Maharashtra a déclaré. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas le déplacer, qu'on ne peut rien y construire.
Donc les promoteurs n'ont pas le droit de rogner sur ce terrain?
Non.
Absolument pas. Aujourd'hui, je représente les travailleurs et nous demandons au gouvernement qu'il nous aide à nettoyer ce bidonville, à améliorer son infrastructure. Pour l'instant, l'eau que nous utilisons part à l'égout. Nous aimerions avoir un système pour la recycler. Nous avons aussi besoin de panneaux solaires pour avoir plus d'électricité et réduire nos factures. Moi, j'aime me voir comme un personnage unique. Dans le monde, vous pourrez voir beaucoup de premiers ministres ou de présidents, mais il n'existe qu'un seul Dhobigat. C'est la plus grande laverie à ciel ouvert du monde. Et pour moi, c'est un honneur d'être le représentant d'un tel endroit.
Et tout de suite sur RFI, on écoute les gars de la rue, les Gully Boys de Dharavi, avec le rap puissant de la star de Mumbai, Divine, ici accompagné de Nidzi.
छोटे-छोटे लेकिन जरा देखो दिल में है जगह बेशुमार दे पुकार कभी भी गली से मदद देने को तैयार गरीबी चलेंगे लेकिन फरे भी करेंगे नहीं जलेबी तलेंगे लेकिन पटेली रुकेगी नहीं जहां भी चलेंगे बोले हटेला झुकेगा नहीं क्यों क्योंकि हटेला है मेरी गली का तरीका सलीका सिकेला है रोशन चौक के अगली बवाली है रौनक बॉम्बे की शौली कमाली है सौपत बहुत ही मोहब्बत वाली है दौलत शौहरत जाके कमा ले वो बंडा बच्ची बमाए क्रिकेट पकड़े पटरी पर मच्छी वच्ची फंसाए किटपिट करवे मर्जी पर छपड़े चरवे छपरी देवे इसकी टोपी उसके सर आड़ी करवे जो भी चेपम चापी उसकी पत्ती पर मेरे गली में गली 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 में ओ मेरे गली में गली 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 में ओ तेरे शूटरों का खास मेरे गली में और पूरे शहर की आवाज मेरे गली में ओ मेरे गली में गली 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 में मेरे गली में मेरे गली में तेरे शूटरों का खास मेरे गली में मेरे गली में मेरे गली में अब पुलिस आई लगी वाट मेरे गली में मेरे गली में गली गली में तेरे शूटरों का खास मेरे गली में मेरे गली में गली गली में एक नंबर सारी बात मेरे गली में
si loin si proche écoutez vous voyagez
one leg dee
tu veux un thé
My name is Somu Pujari.
Moi, je m'appelle Somu Pujari. Je viens dans les Dhobigats tous les matins très tôt, à 4h30 du matin, pour tenir mon stand de thé. À 20h30, j'arrête le boulot et je vais jouer au carom. Je suis né dans la ville de Mangalore, dans le Karnataka. Mais ça fait 20 ans que je suis arrivé à Bombay. Et j'aime beaucoup cette ville.
Moi aussi, j'adore Bombay.
Vous aussi?
Oui, pourquoi?
Parce que Bombay, c'est mon cœur.
My name is Pai, Mumbai.
Ah, si loin, si proche, on est toujours avec Combastin à Bombay, cité de la débrouille et de la finance, située sur la côte ouest de l'Inde et souvent décrite comme le Manhattan indien. Ici, en 60 ans, on est passé de 4 à plus de 22 millions d'habitants. Les lumières de la ville attirent donc les travailleurs, comme elles fascinent les écrivains, qui ont vu dans cette ville le miroir de son époque folle, dense, humaine et profondément inégalitaire. Appelez-moi une mère trop indulgente, aveuglée par l'amour. Mais quand il s'agit de Bombay, je deviens une guimauve. Bombay est mon enfant gâté, mon angle mort, ma faiblesse secrète. Je suis prête à négliger tous ses défauts, car en fin de compte, Bombay m'a faite. Bombay est une pute, mais une pute au grand cœur. Ces mots, parus dans le journal Hindustan Times, sont de l'écrivaine Shobha Adé, une autrice indienne de 73 ans très populaire qui, dans ses écrits, bouscule les tabous, nombreux en Inde. Et elle a bien compris qu'à Bombay, la ville de Bollywood, les coulisses sont autant, sinon plus passionnantes que les décors de la ville.
Well, Mumbai is really like a character in my novels because without Mumbai, I would not have been inspired.
Mumbai, c'est vraiment un personnage dans mes nouvelles parce que sans Mumbai, je n'aurais pas été aussi inspirée. Et je suis très fière de ma ville, surtout que je suis convaincue qu'aucune autre ville en Inde n'aurait toléré une femme comme moi.
Gender is not an issue here.
Ici, votre sexe n'a pas d'importance. Vous êtes professionnel, vous serez traité comme tel. À Mumbai, je me sens libre de me balader n'importe où, sans ressentir aucune peur. Je n'ai jamais connu ça dans le reste de l'Inde, où l'on vous reluque et où les gens peuvent être intrusifs. Sachant que dans la plupart des familles conservatrices, les femmes, en particulier celles de ma génération, n'ont souvent pas d'emploi. Mumbai m'a laissé voler de mes propres ailes. Elle a nourri mon imagination, m'a permis d'écrire librement, sans avoir à peser mes mots.
Donc vous décrivez la ville comme une plutôt grand cœur. J'ai envie de vous demander pourquoi une pute et pourquoi au grand cœur.
Why a harlot? Because everything is for sale in Mumbai.
Pourquoi une pute ? Parce qu'à Mumbai, tout est marchandise. C'est une ville de commerce, au sens très cru du terme. Elle ne prétend pas être autre chose. Si vous avez de l'argent, vous pouvez tout acheter à Mumbai. Si vous n'en avez pas et que votre seule monnaie d'échange est votre corps, eh bien, vous pouvez le vendre aussi.
Why do I call it big-hearted? Because through crisis, time and again.
Pourquoi au grand cœur ? Parce que malgré les crises successives qu'a traversées la ville, les inondations ou les attaques terroristes, ses habitants ont toujours su sortir de ces périodes sombres et s'entraider. Ils n'attendent jamais d'aide de l'État. Et personne ne meurt de faim à Mumbai, ce qui est impressionnant. Évidemment, vous verrez beaucoup de pauvreté, mais celui qui n'a rien à manger est rarement laissé sur le carreau. Et je crois que c'est ce qui fait de Bombay une grande ville, cette humanité entre les gens. Après, c'est une ville très exigeante, mais c'est aussi une ville pleine d'indulgence. Elle vous offre des chances innombrables. Et les success stories de Mumbai sont parmi les plus spectaculaires du monde. Prenez par exemple une immense célébrité du cinéma telle que Shah Rukh Khan. Quand il est arrivé ici, de Delhi, il n'avait que quelques roupies en poche. Un des plus grands manias de l'Inde, Dhirubhai Ambani, de la famille Ambani, a également commencé sa carrière à Mumbai en poussant des charrettes. Sa maison de l'époque existe toujours. Il vivait dans des appartements où la classe moyenne a l'habitude de partager sa salle de bain au bout du couloir et où l'on vit en famille, à 10, dans une ou deux pièces.
Et aujourd'hui, il vit dans un gratte-ciel futuriste complètement délirant qui est connu dans toute la ville.
Et c'est connu aussi dans le monde entier, parce que c'est la résidence particulière occupée la plus chère du monde. L'immeuble fait 27 étages de haut, pour à peine 6 personnes et 300 domestiques pour s'occuper d'une seule famille. Tout ça dans un bâtiment futuriste. Je ne sais même pas comment l'appeler. Manoir, palace, gratte-ciel cubiste. Vous aimez ou vous détestez, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne laisse personne indifférent.
La pointe sud de Bombay et son ambiance coloniale pour nous rendre à l'extrême nord de la mégalopole. C'est là, loin de la cohue de la ville, que l'acteur Rahul Vora nous a donné rendez-vous dans son appartement dont le jardin donne sur l'océan.
Là où nous sommes, Mud Island, c'est ce qu'on appelle the principal hub of shooting. C'est l'épitome des studios de Bombay. Parce qu'il y a beaucoup de bungalows, beaucoup de vieilles maisons et des studios ici, sur ces 7 km de l'île. Mis à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle Film City, donc c'est l'équivalent de Hollywood en Inde. Il y a des décors permanents, mais il y a aussi des décors qu'on installe. D'ailleurs, je tourne dans un film bientôt où on a recréé, si vous voulez, le centre de Bombay des années 50. Il y a tout. Entre les grandes usines de coton et de textile qui existaient dans le temps ici, et les grands bazars qui étaient là, bazars dans tous les sens du mot, qui étaient là. Donc voilà, ils ont sur un terrain de 3 hectares, ils ont construit un mini Bombay, quoi. Mon parcours est un peu particulier, si je peux dire. Je suis né dans le Rajasthan, je suis originaire de Delhi. Donc il y a 22 ans, je suis arrivé ici.
Beaucoup d'immigrés à Bombay.
Dans l'industrie du cinéma, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pratiquement 90% sont de l'extérieur. Et c'est normal parce que l'industrie du cinéma est ici, à Bombay. On fait à peu près 900 films par an, pratiquement 3 films par jour. On a 3 religions en Inde. La religion, le cricket et le cinéma. C'est la réplique d'un de mes meilleurs spectacles, une comédie musicale qui a fait 10 ans de tournée en France. qui s'appelait Bharati à l'époque. L'image de Bollywood avec des jolies filles qui dansent, toutes les comédies musicales et tout, c'est très présent.
Comment ça se passe dans votre milieu Bollywood? On imagine derrière les grandes stars, il y a énormément de petites mains, non?
Oui, énorme, énorme. Donc 700 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie du cinéma, c'est tous ce qu'on appelle les daily wagers, les gens qui sont payés du jour au jour. Prenons les habilleuses, prenons les maquilleuses, les stylistes, les coiffeuses, les électros, les mécaniciens, les grips et tout.
Et au-delà du cinéma, c'est quoi votre rapport à la ville? Vous aimez vivre à Bombay ou vous êtes là parce qu'il faut être là?
Bonne question. Non, je suis toujours un Delhi Wala. Je suis toujours quelqu'un de Delhi qui habite à Bombay. Je préfère Delhi mille fois. C'est une ville millénaire. Donc, y a plein d'histoires, y a beaucoup de culture.
Et qu'est-ce qui vous énerve à Bombay à l'inverse?
Trop centré sur l'argent, trop superficiel. Tout ce monde de glamour, qui ne sont pas authentiques. Enfin, ici, tout est plaqué, tout est fabriqué, si vous voulez. Tout est fabriqué à Bombay. Même la ville même, elle est fabriquée. C'était des îles qui sont liées ensemble pour créer une ville.
It's a very unique history. It can be traced to maybe a series of tiny little islands that once existed to the south.
L'histoire de la ville est unique. Tout commence avec une série de petites îles qui existaient jadis au sud de Bombay, et sur ces îles on trouvait de petits hameaux.
Origins of the city are in Portuguese.
Mais l'origine de la ville remonte vraiment aux colons portugais. La première ville appelée Bombay se trouvait au nord dans une partie qui s'appelle aujourd'hui Vassai. Puis en 1661, les Portugais ont donné les 7 îles de Bombay aux Britanniques en guise de dot pour un mariage. Quelques années plus tard, les Britanniques y ont établi un fort, cette fois au sud de Bombay. La ville a alors grandi très rapidement parce que c'était un port et un nœud central de communication et de commerce entre l'Inde et l'Europe. Des migrants de tout le pays et même du monde entier sont alors venus s'établir à Bombay. Ensuite, pendant la guerre civile américaine, Bombay a connu une nouvelle étape de son développement pour devenir un pôle industriel. À l'époque, le coton du sud de l'Amérique ne parvenait plus aux Britanniques. Le coton indien est donc devenu une denrée précieuse pour les fabricants de Manchester. Des usines ont alors commencé à pousser à Bombay. Mais le terrain manquait. Alors on a décidé de combler l'espace maritime entre les îles. C'est aussi le moment où Bombay a mis en place des lignes de train. C'était les premières de toute l'Inde.
Il y a plusieurs lignes de train comme ça qui traversent Bombay du nord au sud. C'est vraiment les artères de la ville.
Across the entire history of the city, you find that people have lived to the north.
En fait, depuis les débuts de la ville, les gens ont surtout vécu dans le nord où les logements sont plus abordables, et ils se déplaçaient dans le sud, là où se trouvent les industries et le commerce. Donc la ville s'est construite grâce à ces lignes de train. Et vous avez tout à fait raison, ce sont vraiment les veines de la ville. Du marchand de diamants aux travailleurs pauvres, tout le monde se déplace par train. Bien sûr, il y a deux classes dans le train. La première, où vous trouverez le marchand de diamants assis, et la deuxième, où vous allez trouver le travailleur migrant, mais ils prennent le même train pour aller travailler.
Si vous prenez le train un jour à Bombay, aux alentours de midi, en gare de Churchgate, vous tomberez sûrement sur de curieux livreurs en habits blancs, bardés de cantines métalliques, des lunchbox. Leur nom, les Dabawalas, soit celui qui fait les dabas, les gamelles. À Bombay, ces hommes sont une véritable institution. Une guilde hyper efficace, dont s'inspirent d'ailleurs aujourd'hui les start-up de livraison de toute la Silicon Valley. Intrigué, Combastin est donc allé dans le quartier de Dadar, au siège des Dabawalas. Et Rita Chandré est titulaire d'un master de finance. Son père était Dabawala et aujourd'hui, il est leur porte-parole.
Nous sommes les Dabawalas. Nous sommes connus à travers le monde parce que nous distribuons chaque jour 200 000 boîtes déjeuner aux habitants de la ville avec nos 5 000 livreurs. Tout cela sans utiliser la moindre technologie, sans papier, sans plastique. Et nous avons commencé en 1890. Bombay est divisé en deux parties, le nord résidentiel et le sud où on trouve les bureaux. Il y a donc 10 millions de personnes qui descendent travailler tous les matins. Comme les trains sont totalement bondés, il est difficile de transporter son repas. repas. C'est pour cela que les gens font appel à nous pour livrer leurs repas.
Pritesh, comment ça marche? Comment ça se fait que c'est si efficace ce système de livraison?
When I present my case study at the Howard, the main professor.
Un jour, j'ai eu l'opportunité de présenter mon étude sur les Dabbawalas à Harvard. Et le professeur qui était présent m'a dit, les Dabbawalas sont les inventeurs de la logistique moderne décentralisée. Et c'est vrai, la plupart des entreprises de livraison en ligne s'appuient sur notre modèle logistique. Comment on s'y prend? Eh bien, à chaque repas est assigné un code qui mélange des lettres, des nombres, des signes et des couleurs. Donc, grâce à ces repères, nous pouvons faire tourner toute notre chaîne logistique. Et un même plat passe dans les mains de 7 à 8 livreurs avant d'arriver à son destinataire. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est que nous collectons les plats préparés à la maison. Tous les Dabbawalas roulent à vélo pour faire la collecte. Après quoi, nous prenons les trains locaux pour les longues distances et finissons parfois en charrette.
Pourquoi est-ce que ce système il perdure à l'âge où on a des applications de livraison, où on peut aller juste déjeuner au restaurant du coin?
Nous sommes indiens et nous, les Indiens, nous n'aimons pas manger dehors toute la semaine. Nous préférons les plats préparés maison.
Vous êtes un symbole de Bombay, les Dabbawala, et on vous reconnaît notamment à cause de votre tenue toute blanche. D'où ça vient?
En fait, nous venons tous de la même communauté de l'état de Bombay et nous vénérons le roi Shivaji. C'était un grand guerrier. Au XVIe siècle, il a défendu notre peuple contre les envahisseurs. Aujourd'hui, nous portons ses tenues blanches pour vénérer sa mémoire et nous perpétuons son travail en tuant la faim des habitants de Mumbai pour les secourir.
Moi, je m'appelle Unlas Shantaram et je suis le président des Dabbawalas. Mon grand-père et mon père étaient Dabbawalas et j'ai moi-même commencé en 1991. Au départ, j'avais du mal à utiliser le vélo que mon grand-père m'avait légué. Mais depuis, j'ai fait des livraisons de repas tous les jours jusqu'en 2007. Après quoi, je suis devenu président. Mais je continue à livrer des plats tous les matins, en train et à vélo. Pour moi, être président des Dabbawalas, c'est d'abord travailler à leur côté, sur le terrain, pour représenter au mieux leurs intérêts. Ça fait 2 mois que nous sommes autorisés à reprendre le travail. Et depuis le confinement, on fait de notre mieux pour continuer à nourrir nos travailleurs. Des ONG nous ont aussi aidés à leur distribuer des rations alimentaires. Mais la priorité maintenant, c'est de retourner au travail.
En mars, il y a eu le confinement en Inde, le plus grand confinement du monde. On imagine que ça vous a durement frappé.
Au départ, notre comité a décidé de suspendre les services de livraison pour 10 jours, pour limiter les risques de contagion. C'était le 21 mars, avant même le confinement. À l'époque, nous pensions que le coronavirus serait réglé en 10 jours. Très vite, les Dabbawalas se sont retrouvés en difficulté. Ils habitent dans des bidonvilles, ils doivent payer un loyer, nourrir leur famille. Certains sont alors rentrés dans leur ville natale et ont fait jusqu'à 200 km à vélo depuis Mumbai. Ils ont commencé à se reconvertir dans l'agriculture, mais un cyclone a détruit toutes les récoltes. Finalement, le 5 octobre, le gouvernement nous a autorisés à prendre de nouveau les trains de Mumbai. Mais on a dû faire face à un nouveau problème. Beaucoup de nos clients ne travaillent plus en entreprise. Ils sont en télétravail. Donc, où pouvons-nous bien livrer nos repas? Seulement 120 Dabbawalas travaillent en ce moment.
Donc plus de trains dans un premier temps, plus de clients aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font tous les Dabbawalas qui restent?
Nous avons prévu de proposer nos services sur Internet. Il sera désormais possible de commander ces fruits et légumes via une application et le lendemain matin, ils vous seront livrés sur votre palier. Aussi, nous allons nous ouvrir aux investisseurs extérieurs. Par exemple, n'importe quelle entreprise pourra utiliser le logo et le nom des Dabbawalas pour ces services. Mais à une condition, les emplois doivent être réservés à nos travailleurs. Ça fait 130 ans que les Dabbawalas nourrissent le peuple de Mumbai, mais ils n'ont toujours pas leur propre habitation. D'ici un an, nous espérons avoir notre propre immeuble dans la ville. La municipalité nous a également promis de plus grands bureaux. Ça nous permettrait d'ouvrir un musée des Dabbawalas.
during the lockdown, stillness was extremely disturbing.
Pendant le confinement, toute cette immobilité était vraiment troublante, surtout que c'était un confinement total. Des centaines de milliers de migrants ont commencé une longue marche vers leur village d'origine parce qu'ils avaient perdu leur travail. Ils avaient tout perdu. Il n'y avait plus de train, plus de bus. Ils ont fui la ville sans un sou en poche et aucune aide du gouvernement. Ils ont alors marché avec le peu de nourriture qu'ils ont pu trouver, leurs enfants sur le dos, les pieds ensanglantés. C'était une honte terrible. Tous ces migrants qui sont venus à Mumbai ne peuvent pas être rejetés comme ça. On ne peut pas les ignorer parce qu'ils sont vraiment la colonne vertébrale de la ville. Même le plus pauvre des migrants contribue à cette ville. Parce que sans eux, et nous en avons fait l'expérience pendant le confinement, Mumbai a du mal à fonctionner normalement. Il a donc fallu que ces gens reviennent de leur village. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont revenus, car comme je le dis souvent, une fois qu'on vient ici, on donne son cœur à la ville et on ne veut plus repartir.
Aujourd'hui, la ville, elle se réveille petit à petit avec le déconfinement. Est-ce que Bombay sera la même ?
No city in the world will ever be the same, and neither will any human being who is.
Aucune ville dans le monde, tout comme aucun être humain, ne sera le même après ça. L'économie de la ville a été durement touchée, et je pense qu'il lui faudra au moins 5 ans pour s'en remettre. Il faut savoir que l'un des lieux les plus emblématiques de la ville, connu dans le monde entier, la colline Malabar, a commencé à s'effondrer. Des pans entiers se sont écroulés à cause de l'urbanisation à outrance. Cela n'était pas arrivé en 100 ans et cela aurait dû nous réveiller. La route principale qui relie le sud au reste de la ville s'est séparée en deux et le pont autoroutier s'est effondré aussi. Donc il va y avoir un gros souci ici en termes de surpopulation et d'urbanisation parce que tous les espaces verts ou vacants ont été urbanisés. Donc qui sait dans 30 ans ce que deviendra cette partie sud de la ville où nous sommes ? Elle va peut-être s'affaisser complètement ou disparaître sous la montée des eaux. La ville se modifie radicalement et nous devons y faire face. Peut-être sommes-nous désormais plus conscients des dommages que nous avons faits à cette ville. Et j'espère que nous serons plus responsables à l'avenir.
En octobre 2019, une étude mondiale de l'organisation scientifique américaine Climate Central a prédit la disparition d'ici 2050 des trois quarts de la ville de Bombay, engloutie sous la montée des eaux et les inondations. Dans la mégalopole côtière saturée et souvent construite en dessous du niveau de la mer, on plante alors des mangroves pour parer à la catastrophe et les gratte-ciels, eux, continuent de pousser. Planète Bombay, c'était un reportage de Koum Bastin. Merci à Rachesh Sharma, directeur de la collection Lettres indiennes chez Actes Sud, qui édite Shobhaade. Merci à Kijish Campbell pour ses traductions et Olivier Dallage, confrère de RFI et grand amoureux de Bombay. Et merci à tous les Mumbaikers pour leur accueil. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, Koum Bastin, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RFI.
Tout à l'heure sur RFI.